Mes amis, c'est une très grande joie d'être avec vous de nouveau ce matin. Je remercie beaucoup Marc de m'avoir invité, de prendre le risque, encore une fois, de laisser parler un philosophe à l'oratoire. Je voudrais dire aussi mon embarras parce que je vais vous présenter vraiment un embryon de recherche et j'ai déjà une récolte trop fournie et donc j'ai peur de vous étouffer avec toutes mes idées. C'est une lecture philosophique de Paul qui m'intéresse aujourd'hui, car Paul est à la mode en philosophie. Je ne parle pas des philosophes chrétiens comme Kierkegaard, comme Ricoeur justement, mais vraiment de philosophes athées, Alain Badiou, Agamben, comme jadis Heidegger, Nietzsche ou Freud ont travaillé sur Paul. Et c'est vrai qu'en France, avec la séparation entre la philosophie et la théologie, la séparation des églises et de l'État, il y a une séparation institutionnelle des disciplines qui est telle que c'est en train de créer une sorte d'amnésie totale, de coupure totale, comme si les philosophes n'avaient aucune influence sur la pensée théologique, et ce qui est bien sûr évidemment faux, et comme si les apôtres, notamment Paul, n'avaient pas une immense influence dans l'histoire de la philosophie, dans l'histoire des idées. Il y a une sorte de dénégation, d'oubli de cette influence. Donc je dirais qu'au moins autant qu'Aristote, vous savez, Aristote, c'est la matière et la forme, la puissance et l'acte, la substance et l'accident, le genre et l'espèce. C'est des concepts fondateurs qu'on retrouve partout tout au long de notre civilisation presque. Eh bien, les concepts fondamentaux de notre culture, pas seulement de notre philosophie, le grand code de notre philosophie vient aussi de Paul. J'en donne quelques exemples. La lettre et l'esprit, la loi et la foi. La foi, c'est d'ailleurs un terme que Paul a emprunté, le pistis à Épicure. Les œuvres et la grâce, la servitude et la liberté, avec l'inversion qu'il propose, et la liberté, nous sommes libérés, donc il y a une transcendance qui nous libère. L'homme intérieur, l'homme extérieur, c'est fondamental pour comprendre Kant, par exemple. La foi, l'espérance et l'amour dont Marc vient de parler, avec cette définition de l'amour. L'amour, chacune de ces termes est redéfinie autrement. La chair, par exemple, la chair, il ne faut pas penser la chair et l'esprit de manière dualiste, puisque Paul parle de la résurrection de la chair. Donc c'est anti-dualiste. Vous voyez, c'est des inventions incroyables. Des inversions, la sagesse et la folie qui inversent, la force et la faiblesse qui s'inversent, la maîtrise et la servitude aussi. Il y a une dialectique, une inversion. Il y a une rhétorique à plus forte raison, de la disproportion. Il y a des jeux de répétition. On reprend, on re-raconte l'histoire autrement. Re quelque chose, réforme, renaissance, ça vient de Paul. Ce geste de la reprise, ça vient de Paul. Et c'est très important parce que ça reprend le temps autrement. Il y a un rapport du nouveau à l'ancien avec une reprise. Bon, je suis en train de faire la prédication. Donc voilà, Paul est aussi un philosophe. Je fais ici quelques pistes modestes, lacunaires, fragmentaires. Je vais lire quelques fragments et donc mes lectures bibliques, je vais les disséminer dans la prédication, c'est des fragments qui échappent d'une certaine manière à l'intention de l'auteur et qui sont reprises par d'autres auteurs avec peut-être des contresens complets, mais qui font partie de l'histoire de notre culture. C'est ça que je vais tenter de montrer. Mais je vais commencer par méditer deux petits propos de Paul dans la première épître aux Corinthiens. Chapitre 13, le verset 1, puis chapitre 14, le verset 18. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et 1 Corinthiens 14, 18-19, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire ainsi les autres que 10 000 paroles en langue. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur le sentier de nos vies. Nous chanterons le cantique 204 dans le recueil Louanges et prières. Seigneur, dirige et sanctifie. Ce seront les deux strophes. Notre Dieu, tu nous as donné rendez-vous avec ta parole. Permets donc que nos rendez-vous secrets ou publics avec ta parole deviennent des rencontres. Donne-nous l'émoi de l'amoureux qui devine la présence. Donne-nous l'élan de l'amoureux qui enserre et qui aime. Donne-nous la mémoire de l'amoureux qui retient dans son cœur tout ce qui a eu lieu et qui en magnifie la grâce et la gloire. Notre Dieu, vivons ensemble la joie imprévue et la répétition régulière de nos rendez-vous trouvés. Nous te le demandons à toi qui t'es incarné en ton Fils pour que notre terre croise ton ciel par la force du Saint-Esprit. Je voudrais commencer ma méditation par la trace de la pensée de Paul chez quelques grands penseurs de notre histoire des idées. Je commence par un grand philosophe allemand qui s'appelle Leibniz. Leibniz a écrit une métaphysique. C'est une métaphysique de part en part chrétienne et paulinienne. C'est peut-être la première d'ailleurs. Elle est dynamique. Elle s'appelle la monadologie, peu importe. Et son résumé se trouve au cœur de la monadologie, c'est uniquement un commentaire de l'expression « tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Et en Dieu, tout est en tous, nous sommes tous en tous, tout est en lien. C'est donc une méditation de Romains 8, 28. Deuxième trait, Kant, chez Kant. Kant reçoit de Luther la distinction entre l'homme intérieur et l'homme extérieur qui sont soumis à des régimes différents. Cette idée que nous pouvons être soumis à des régimes différents, c'est-à-dire obéir à des formes de règles, de règnes différents, ça c'est une idée très importante en philosophie. Et bien donc, il y a le domaine physique du savoir, de la nature, et le domaine moral de la liberté pour Kant. C'est un prolongement de l'homme extérieur et de l'homme intérieur. Kant reçoit aussi de Calvin, à travers justement la lecture de Calvin, il reçoit Paul, l'idée qu'il nous faut sortir de l'enfance, qu'il nous faut sortir de la minorité. C'est ça qu'il définit comme étant les lumières. Devenir adulte, devenir responsable. Il y a un moment où nous devons devenir adultes. C'est une méditation de Éphésiens 4, 13, 15, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leurs ruses et par leurs moyens de séduction. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons, hein, cette idée de croissance, à tous égards, en celui qui en est le chef, la tête, Christ. Et puis, dernier trait chez Kant, que je trouve très important, cette idée de se redresser mutuellement, de se corriger mutuellement, fraternellement. Galates 6.1, « Frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. » Et on trouve chez Kant l'idée que l'humanité, les humains, comme dans une forêt, ils croissent plus haut parce qu'ils croissent ensemble et que, comme les arbres, en montant, se corrigent mutuellement, ils peuvent monter plus haut dans une forêt que s'ils étaient tout seuls. Je prendrai maintenant Hegel. Hegel, Paul est très important pour comprendre Hegel. Il y a des passages entiers de sa phénoménologie de l'esprit, je ne vous demande pas de lire ça, mais qui sont inspirés de la lecture de Paul. Et c'est d'abord cette idée qu'il faut se perdre pour se trouver. Il faut se faire esclave pour être libéré. Il faut se vider de soi. Il faut accepter d'être le rebut, l'ordure. Il faut, et c'est toute l'idée de l'incarnation, une sorte de, il y a une dialectique de la servitude du maître et de l'esclave, c'est connu, une dialectique dans laquelle on s'aliène, on se perd soi-même, on s'appauvrit pour se retrouver enrichi. Méditation de la deuxième épître aux Corinthiens, versets 8 à 9. « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. » On trouvera derrière cela aussi Feuerbach, Marx, toute l'idée d'aliénation, qui chez Hegel est positive, comme chez Paul. Et après c'est la relève, la reprise, la récapitulation de tout cela. Bref, d'une certaine manière, il faut, si on veut monter, il faut descendre. C'est la grande idée mystique qu'on trouve chez Saint Jean de la Croix, que pour monter au ciel, il faut toujours monter en descendant. Éphésiens 4, 9. Hein ? Que signifie « il est monté » sinon qu'il est descendu ? C'est très drôle. Emerson. Emerson, c'est le perfectionnisme. Je pense à Emerson, je pense à notre ami Raphaël qui nous a si brutalement quittés, qui a fait ce magnifique livre sur Emerson. Et regardez ce que dit Galates 6, 4, verset 4. « Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier par rapport à lui-même et non pas par rapport aux autres, par comparaison avec les autres. » Ça, c'est la clé du perfectionnisme. On peut aller plus loin. Si on reste juste dans la comparaison avec les autres, il y a un moment où on s'arrête, par conformisme. On peut aller plus loin parce qu'on se compare à soi-même et on va plus loin que soi-même. Alors tout ça, on va dire, ce sont des auteurs chrétiens. C'est vrai, Kant, Emerson, Hegel, mais Marx. Alors Marx, ce n'est pas un chrétien. On trouvera chez Marx le cœur finalement de l'idée des Éphésiens, c'est que si les Juifs et les païens sont réconciliés, alors la société tout entière sera réconciliée, l'univers, le cosmos sera réconcilié. C'est toute l'idée du messianisme, d'une certaine manière. Et puis, il y a d'autres lectures païennes, comme celle, anti-païenne, mais athée, comme celle de Nietzsche. Il y a une sorte de reprise très négative de Paul chez Nietzsche, dans l'Antéchrist. L'Antéchrist est un livre consacré pratiquement à Paul, à l'apôtre Paul. Paul, inventeur du christianisme, qui trahit Jésus. Paul, le prêtre ascétique, qui empoisonne et qui en même temps apporte le remède à son propre poison. Mais c'est une lecture extrêmement sévère à l'égard de Paul. Mais Nietzsche est un fils de pasteur, il connaît très bien Paul, c'est un grand lecteur de Paul. D'une certaine manière, il a écrit ainsi par les Zarathoustra, on a le sentiment qu'il voulait imiter Paul, c'est-à-dire fonder une religion. Donc quelque part, c'est encore une lecture de Paul. Et Freud aussi. Freud, dans le Moïse et le monothéisme, ça se termine par une lecture de Paul. En gros, il y a eu le meurtre du père au Sinaï, et Paul, c'est quelqu'un qui dit « on est malheureux parce qu'on a tué le père, mais regardez, il y a un fils innocent qui a pris sur lui le péché du meurtre du père. » Donc Dieu est mort sur la croix, mais voilà, c'est pour nous laver du péché, et donc nous sommes réconciliés avec le père mort. C'est un sacrifice expiatoire. Et puis, dernière figure, c'est depuis Kierkegaard, avec Heidegger surtout, et tout récemment, l'idée d'événement. un événement qui introduit une rupture dans la vie. Il y a un avant, il y a un après, il y a un ancien, il y a un nouveau. Alors cet événement, bien sûr, c'est le chemin de Damas, la rencontre, la conversion, l'inversion, le retournement du chemin, quelque chose qui fait que toute ma vie, je serai fidèle à quelque chose que je ne connaissais pas avant et qui vient bouleverser ma vie. Et cette vérité, je serai fidèle toute ma vie. C'est une idée centrale chez un philosophe contemporain comme Alain Badiou. À vrai dire, l'événement, il y en a plusieurs événements dans la vie de Paul. Il y a celui de la conversion sur le chemin de Damas. Il faut voir que c'est quand même Paul, c'est quand même celui qui gardait les vêtements de ceux qui lapidaient Étienne. Et donc si après il devient à son tour, cette conversion, c'est vraiment un événement. Il y a aussi l'incident d'Antioche, ce qu'on appelle le conflit d'Antioche, la dispute avec Pierre et avec, on va dire, ceux qui pensent que quand même on est des juifs. Hein. Nous les chrétiens, on est des juifs, de toute façon on ne s'appelle pas chrétien, d'une certaine manière c'est lui qui invente. C'est à Antioche que s'invente le mot chrétien. Et puis, peut-être surtout, dans le procès, puisqu'il est fait prisonnier, il fait appel à Rome. Et donc, il refuse. Le gouverneur romain voulait faire un procès juif. Il dit non, ce n'est pas une affaire juive, c'est une affaire qui concerne l'Empire romain. Il fait appel à Rome. Ça concerne tout le monde. Et quelque part, cette affaire devient une affaire théologico-politique de très grande importance. C'est-à-dire, si ça concerne tout le monde... Depuis Corinthe, il écrit l'Épître aux Romains, et l'Épître aux Romains, c'est bien quelque part un défi à la loi romaine, et pas seulement à la loi juive. C'est quelque part un défi à la religion de la victoire, qui est la religion romaine, un défi à l'impérium. En Christ, quelqu'un qui est vraiment le comble du vaincu va vaincre le comble du vainqueur qui est l'empereur. C'est ça qui est annoncé quand même. Donc vous voyez quand même, c'est une déclaration de guerre. Comme disait un commentateur de Paul, qui s'appelle Jacob Taubas, il disait « Les officiers romains n'étaient pas des idiots. » Ils comprenaient bien que c'était une déclaration de guerre, que c'était très grave. Alors maintenant, je voudrais verser sur mon deuxième moment, c'est-à-dire les lectures de Paul, les thèmes qui, chez Paul, ont travaillé toute l'histoire de la pensée. J'en prends juste là encore deux ou trois exemples. Premier exemple, c'est justement la question de la soumission aux autorités. Puisque dans l'Épître aux Romains, Romains 13, 1, justement, il désarme la guerre qui se prépare avec Rome en disant « Mais attendez, moi je demande la soumission aux autorités. Soyez soumis aux autorités. » Je vous lis. Donc Romains 13, 1, 5. « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. » Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Voilà ce qu'écrit Paul. Alors bien sûr, on peut dire que toute l'histoire, non seulement de l'Église, mais de l'État, dans tout l'Occident, n'est qu'un commentaire de ces deux ou trois petites phrases, avec toutes les variations. Il y a la variante « soyez soumis »,« soumission », la variante, on va dire, conservatrice, hein. Mais il y a des variantes révolutionnaires, tout à fait de rébellion, c'est-à-dire, en gros, tout cet ordre qui est là, l'ordre impérial qui est là, c'est du bluff. C'est un peu l'idée de Jacques Ellul. Il y a le bluff technologique et le bluff impérial. C'est du bluff, ça ne tient pas, ça va partir, ça va s'évanouir comme de la fumée. Nous, on se prépare pour après. Et donc, on peut le lire en disant, soyez soumis, ce n'est pas grave. C'est pas important de... Laissez faire, soyez juste soumis, c'est juste pour conserver quelque chose, mais c'est pas grave. Mais quand on regarde de près, c'est plus embêtant que ça, parce qu'il dit, le magistrat est serviteur de Dieu pour votre bien. Et ça veut dire que... Et donc il ne suffit pas d'être soumis par crainte, mais par motif de conscience. Alors là, on sort complètement... Je dirais de la logique classique, qui est la logique encore de Machiavel, dans laquelle le prince il joue sur le mensonge, sur la violence, sur la crainte, sur la lâcheté, sur la crédulité, etc. Sur tous les ressorts, je dirais, de la manipulation politique. Non, c'est pour le bien. Et quand on lit Calvin, non, le magistrat c'est bien, l'État c'est bien. L'État fait partie du plan de Dieu. L'État fait partie du plan de Dieu. C'est incroyable comme idée. Mais du coup, ça introduit... On n'est pas seulement de l'extérieur spectateur de l'État. C'est pour notre bien et par motif de conscience. Donc ça introduit du même coup une idée critique. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement de l'extérieur, ça introduit une idée critique qu'on va retrouver par exemple chez Rousseau. Chez Rousseau, il va dire, eh bien, un ordre politique n'est stable que si on y obéit volontairement et pas seulement par la crainte. Si c'est uniquement par la crainte, dès qu'il n'y aura plus la crainte, tout va se casser la figure. Donc il faut bien qu'il y ait une participation plus intérieure. Et là, il y a quelque chose comme une pression sur le politique de l'intérieur qui vient de la prédication de l'Église elle-même, qui va peu à peu modifier le politique tout entier, qui va le changer, qui va le tourner vers quelque chose, j'ose pas dire démocratique, parce que c'est tellement historique tout ça, c'est des formes qui changent. Aujourd'hui, on voit bien les limites aussi de la démocratie. En tout cas, la démocratie conçue comme le système électoral, les majorités électorales. Aujourd'hui, peut-être que la révocation de l'édit de Nantes trouverait encore une majorité en France. Hein. Je sais pas. Bon. Deuxième thème, l'universalisme. Alors, c'est Galates 3, 28. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Alors on pourrait dire que c'est l'annonce du programme de la mondialisation. C'est-à-dire que finalement l'identité, ce n'est pas important. On peut jeter toutes nos identités, toutes nos appartenances. On pourrait même dire que c'est le programme des études du genre, aujourd'hui dénoncé par le pape, c'est-à-dire l'idée queer, que finalement notre identité sexuelle, il n'y a plus ni homme ni femme, on peut changer, on peut, etc. Là j'exagère un peu peut-être. Mais certaines lectures aux États-Unis, il y a dans certaines facultés de théologie des lectures qui vont dans ce sens-là. Il me semble que le plus important, c'est d'y voir cette vision universaliste, c'est-à-dire cette vision épique. Ricoeur a insisté beaucoup sur cette vision épique en disant que finalement, nous avons peu à peu, nous, après Augustin, et encore plus dans le protestantisme, individualisé, rétréci, d'une certaine manière, le péché à n'être qu'un péché moral et individuel, et le salut à être un recrutement d'individus hors d'une masse perdue. Et il dit, mais non, il y a une dimension épique, une dimension universelle, et d'une certaine manière, c'est aussi le débat sur la prédestination qu'avait Karl Barth avec Pierre Maury. Je vous lis juste un passage. Romains 11, 32, « Car Dieu, en Adam, d'une certaine manière, a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire, en Christ, sous-entendu, miséricorde à tous. » Donc, tous les hommes sont perdus, tous les hommes sont sauvés. Vous voyez, c'est beaucoup plus épique, c'est pas juste par rapport à des choix individuels, même si, bien sûr, ça a du sens, ça change la vie, hein, d'avoir cette vision épique. C'est comme ça, moi, que j'entendrai cette conception de l'universel. Troisième thème, et ce sera mon dernier thème, c'est l'invention de la subjectivité. Avant Paul, il y a des choses qu'on ne trouve, il y a des genres, un genre littéraire qu'on ne trouve pas. Il y a eu un style en je, une manière de dire je, de dire mes amis, d'une certaine manière. Je vous lis un petit passage, Galates 4, 20. Ah, je voudrais, mes petits-enfants, il parle, mes petits-enfants, je voudrais être maintenant auprès de vous et trouver le ton qui convient, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Il cherche une voix, c'est pas seulement des arguments, c'est pas seulement des concepts, c'est une voix. Et une voix, c'est singulier, c'est vivant, c'est personnel. Alors, on pourrait dire qu'il est, avec Sénèque, Sénèque aussi écrit des lettres. Hein, parce que le caractère de l'œuvre de Paul, c'est des épîtres, c'est des lettres. Et dans les lettres, il y a de tout, il y a un mélange de récits autobiographiques avec des vicissitudes, un mélange d'idées que moi, je ne suis pas important, je suis un avorton, je ne suis rien du tout, argumentation, des exhortations, des vituperations, des proclamations, bien sûr. Il y a un mélange de genres absolument incroyable. Alors, Sénèque aussi écrit des lettres, lettres à Lucilius, etc. En gros, Paul est contemporain du stoïcisme. Et le stoïcisme, comme l'a montré Michel Foucault, c'est vraiment une philosophie du souci de soi, du soin de soi, du soin de sa propre âme, de la recherche de qui je, l'art d'être soi-même. Donc on pourrait dire que Paul est un chapitre de l'invention du moi, de l'invention du je singulier. Alors je vous donne quelques fragments. Romains 7, 16. J'ai la volonté et non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Vous voyez, il y a dans ce passage, une analyse incroyable de l'écart entre pouvoir, vouloir, et où est le sujet, sinon dans le vouloir, et même éventuellement dans un vouloir impuissant, dans l'impuissance, dans la faiblesse même du vouloir. C'est là que se tient la subjectivité. Hein, bon. Première figure. Deuxième figure que je veux évoquer, 2 Corinthiens 4, 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, se défait, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Hein ? Au fur et à mesure que nos corps se défont, nous rajeunissons, nous renouvelons de plus en plus, nous sommes de plus en plus proches du tout nouveau. Là, il y a aussi quelque chose qui est tout à fait bouleversant. Et puis, cette idée, Romains 14, 13, je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Là, il y a vraiment une... Après ça, on peut lire Sartre, hein, l'en soi et le pour soi, la différence. On peut dire, il y a une invention finalement de ce qu'on appelle la phénoménologie, de l'idée d'intentionnalité. Hein, rien n'est impur en soi, c'est impur pour celui pour qui c'est impur. Alors en guise de conclusion, je voudrais développer cette interrogation, une pensée interrogative. Et mon dernier garçon, Ulysse, qui me disait l'autre jour, oui, avec toi, ça commence toujours par un interrogatif et ça se termine toujours à l'impératif. Donc, voilà, c'est quand même une interrogation, c'est pas rien d'impératif, c'est juste une suggestion. Donc, pour Foucault, pour Michel Foucault, je viens de le dire, et pour tous ses élèves, l'Antiquité, c'est une école du souci de soi. Du souci de soi dans l'insouci du monde. Ça peut devenir presque acosmique. Hein. Et on peut lire, en effet, Paul... dans cette idée du souci de soi, du souci du soin de l'âme, de l'invention du soi. Mais moi, je me demande si la réforme, Luther, Calvin, c'était pas justement au contraire l'invention d'une lecture complètement différente, inversée, une lecture de Paul dans l'insouci de soi. Et c'est ça l'idée de la grâce. Je vous lis Romains 9, 21. Romains 9, 20, 21. Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? Qu'importe ce qu'on fait de nous, nous sommes dans la main du Seigneur de toute façon. Nous ne sommes que ces créatures. Et donc, il me semble que cette invention, cet insouci de soi, cette libération, ce désangoissement, cet insouci de soi qu'avait inventé la réforme, bizarrement, et que donc l'insouci, il faut se vider, dit Calvin, du souci de soi et de son propre salut, dit Calvin. À partir du XVIIIe siècle, il y a une sorte d'inversion, dans le catholicisme c'était là, mais dans le protestantisme lui-même, et on a remis en avant le souci de soi, le souci du salut, dans une subjectivité qui est devenue une subjectivité quasi romantique, d'une certaine manière, un moi qui enfle, des sentiments qui sont importants, etc. Mais quand vous écoutez la musique de Bach, eh bien, le moi, il est complètement effacé dans le monde, dans l'écoute de l'émerveillement de la création. Donc je me demande s'il ne faudrait pas, nous, aujourd'hui, dans une époque peut-être d'extrême souci de soi, mais peut-être d'extrême angoisse du soi, retrouver une lecture de Paul proche de celle des réformateurs qui nous redisent l'insouci de soi. Il me semble que l'insouci de soi, nous l'avons dans un fragment comme 1 Corinthiens 9, 19. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Et il écrit aussi 1 Corinthiens 10, 23, 29, « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Je parle ici non de votre conscience, mais de celle d'autrui. » Et il me semble que ce que nous trouvons chez Paul aujourd'hui, ce que nous trouvons qui me semble très important, c'est l'inversion du souci. Le souci de soi qui est... vider de soi-même pour se reporter sur autrui, pour se reporter vers le monde. Et il me semble que ce soin de l'autrui, ce soin du monde, il me semble que c'est un des cœurs de la prédication de Paul. Amen.